This is the sound of an express service from Mercedes-Benz Cars. Two of our expert technicians working exclusively on your Mercedes-Benz while you sit back and enjoy a complimentary coffee on us. All it takes is as little as an hour of your day. The whole process is quick, easy, and hassle-free. Get an instant quote online and book a time that suits you. Simply search my service and book yours today. And before you know it, you'll be on your way. Subject to the service required at participating retailers only. Terms and conditions apply.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. François Pinet.
De retour dans l'After, 22h02, on est ensemble jusqu'à minuit. Damien Perrinel, Jonathan Macardy, François Manardeau et un invité pour notre grand dossier sur le foot du futur, Ludovic Tenez est avec nous pour et si on modifiait vraiment les règles du foot. 99 propositions qui font réagir, vous voyez, ça fait réagir. Je suis sûr que ça vous fait réagir également derrière votre poste. Driss et Bruno, on va les prendre dans un instant au 32-16. Il y a énormément aussi de réactions sur le hashtag qu'on a mis en place, Mon Foot du Futur. Alors il y a par exemple, je ne vais pas pouvoir tous les lire, mais Kevin qui nous dit ne surtout pas augmenter le nombre de remplacements possibles. La résistance physique est une des qualités importantes pour gagner un match.
Tu sais pourquoi 3 c'est parfait ?
Non, vas-y.
Parce que c'est un par ligne.
Oui.
C'est un par ligne et ça donne l'occasion à l'entraîneur de changer
sauf
un
si
élément.
Si tu es un gardien,
ligne.
Du coup tu rajoutes.
Pour moi c'est
pour
parfait.
Non, exactement. Normalement il y a 4 lignes au football.
Il est gardien, donc vous insistez pour ce remplacement de gardien.
Non,
pour moi, le gardien doit être capable de faire tout le match.
Pour toi, 2 c'était imparfait.
Bah non, parce que c'est 1 par ligne. 3.
Non, mais il y en a 4 de ligne.
Pour moi, c'est 3 et on compte pas le gardien, il est censé. Le gardien est censé faire tout le match.
Pour tous les entraîneurs du monde, il y a 4 lignes.
Ouais, mais le gardien est censé faire tout le match.
Bon, alors on va
passer un diplôme d'entraîneur.
Bah, que le gardien il est censé faire tout le match. Mais vous êtes là dans des idées farfelues de vouloir.
Ah, tout de suite.
Si le gardien se fait expulser, se prend un carton rouge, ça doit pas compter comment. Mais en gros, vous voulez supprimer le carton rouge pour le gardien en fait.
Mais pas du tout.
C'est pas le carton rouge pour un gardien ne deviendrait pas un carton rouge. Ça serait.
Jonathan,
on est obligé de changer de gardien.
Non,
c'est vous qui êtes pas sérieux les amis.
Alors il y a une proposition aussi de Kevin Cacré, OL, un supporter de Lyon.
Ah bah c'est Maxence.
Il dit non, c'est Kevin Cacré. Je pense que c'est un fan. Si contestation de l'arbitre, on peut faire comme au rugby, reculer les joueurs de 10 mètres. Alors, ça, c'est dans votre livre.
Tout à fait, c'est pas de moi. Donc, ça a été testé dans les années 95. Donc, c'est une règle qui est appliquée au rugby et qui a l'air de poser aucun problème. Nous, au football, ne pas discuter avec l'arbitre, ça a l'air de me poser vraiment des problèmes. Donc, dès l'origine du football, il n'y avait pas d'arbitre. Donc, je pense qu'on en est resté à peu près là. Et je pense que les images, les cadrages sur des gens qui discutent avec l'arbitre, ça doit être faire partie du spectacle. Puisque, comment on n'arrive pas à appliquer cette règle aussi simplement que dire on vient pas discuter avec l'arbitre et sinon, ça fait 10 mètres. Bon, là, il y avait eu 2-3 petits anicroches, c'est-à-dire que si le coup franc était à 25 mètres, si on avance de 10 mètres, on se retrouve dans la surface de réparation. Donc, est-ce qu'on tire au 16 mètres 50, un coup franc sans mur, etc. Donc, il y avait cette discussion-là. Mais c'est, oui, je pense que ça peut être dans l'air du temps.
Alors, d'autres propositions au 32-16. Driss rejoint l'after. Salut, Driss.
Oui, salut, bonsoir.
Salut, Driss.
Salut, Driss.
Alors, merci d'être avec nous. Toi, tu veux revenir sur ce dont on a parlé tout à l'heure, sur cette fameuse règle qui a fait beaucoup débattre ici, sur les touches au pied, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, j'écoutais à la radio, donc je me dis, je voulais intervenir parce que
tu as raison, t'as bien fait.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de cette règle de touche au pied, mais très peu de personnes savent que ça a été testé pendant un an en Belgique. Et moi, je suis un ancien joueur. Donc j'ai joué à Sedan en France. Après je suis parti en Belgique. Donc je suis arrivé juste pour le début de la saison. Et on m'a dit qu'il y avait une règle qui était expérimentée. C'était la touche au pied. Ils appelaient ça le kick-in à l'époque. Je pensais que c'était une blague belge, mais il s'avérait que c'était vrai quoi. Et donc on a joué toute une saison comme ça avec la touche au pied.
Alors comme tu as testé, comment ça, qu'est-ce que ça change?
Ça change tous les codes en fait quoi. C'est comme conduire à droite et puis arriver en Angleterre et conduire à gauche quoi. Donc ça change tous les codes. C'est-à-dire que quand il y a une touche, donc quand elle est jouée rapidement, il n'y a pas de hors-jeu. Donc il faut vite faire le repli défensif. Voilà, donc c'est vrai que c'était...
Ah parce que là, il n'y avait pas de hors-jeu sur les touches
au pied. Non, sur les touches, il n'y a jamais de hors-jeu.
Non, voilà, mais là avec le pied, ils auraient pu mettre en place un système de hors-jeu aussi.
En revanche, moi, ce qui m'intéresse, les joueurs de votre équipe et les adversaires, ils se mettaient à combien de distance réglementaire par rapport à la touche au pied ?
fallait une distance, on pouvait pas se coller à la.
Ah bah oui, évidemment, parce que sinon on peut pas l'exécuter. L'avantage de la touche à la main, c'est qu'on donne une hauteur au ballon qui peut obliger l'autre les adversaires.
Tu peux donner une hauteur au ballon avec le pied.
C'est plus compliqué si le mec il se met vraiment en face.
La trajectoire n'est pas la même.
Comment tu fais ? Raison, oui. Si le mec il se met en face, il faudrait que tu te la lèves pour faire comme une cloche.
Ouais. T'imagines le truc ? Une cloche, ça va tout droit quoi dans le ciel.
Et donc,
tous les coups de pied arrêtés, c'est 10 yards. C'est 9m15 quoi qu'il arrive. Maintenant, si on le transforme la touche.
Non, mais je voudrais savoir par rapport à notre ami qui a joué en Belgique. C'était quoi la distance qui avait été réglementarisée ?
Bah, si ça joue au pied, ça va être une règle comme tout ce qui se joue au pied. Voilà, à 9m15, 10 yards.
D'accord.
Et puis après, tu peux avoir aussi des touches au pied, mais t'as le droit de les jouer. Enfin, là, on part vraiment dans le délire, mais d'avoir que des touches au pied, mais au sol. T'as pas le droit d'avoir un ballon aérien. En fait, c'est
des jeunes, un football de jeunes.
Je voulais rebondir là-dessus. Ce sont des consignes qu'on donne à l'entraînement, parfois, justement, interdiction de jouer en l'air pour nous forcer à trouver des solutions au sol. Et comme vous le dites, aujourd'hui, en jeunes, les gardiens n'ont pas le droit de dégager. Ils sont obligés de repartir au sol de derrière. Donc, la Fédé a adopté des règles pour la formation des gamins, en soi. Pour éviter justement d'avoir que du jeu long à tout va sur
du gelon et des jeux de tête, puisque ça commence à être interdit dans certains pays, le jeu de tête pour les enfants, donc aux États-Unis notamment. Voilà, on sait pas les répercussions du jeu de tête sur un cerveau pendant 10 ans, on sait pas.
Et d'un côté, les gamins aux États-Unis ont quand même le droit de jouer au foot américain, vous vous rendez compte de la débilité.
C'est du flag, c'est du flag.
Ouais, ils ont pas le droit de flag avant,
avec les trucs que d'attraper la ceinture,
les drapeaux jusqu'à 14-15.
Donc 14-15, c'est quand même en développement quand même.
Triste juste pour finir sur ce dossier de la touche au pied. C'était mieux en termes d'action.
Oui. En fait, il y avait plus d'action. C'est vrai que sur les mois, personnellement, je préfère les règles comme elles sont maintenant, quoi. Franchement. Ouais. Et c'est vrai qu'au niveau des supporters, ils aimaient bien. C'est vrai que des fois, il y a des matchs où ça ronronne un peu. Donc là, au moins, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui en abusaient aussi. Donc c'était des longs ballons dans la surface, donc de duels aériens, etc. quoi. Donc c'était.
D'accord. Bon, ouais, bah merci en tout cas d'être passé dans l'after.
En quelle année,
Ludovic,
te demande.
C'était
96-97.
T'étais où, Driss? Il prend des notes, il va venir t'interroger, Driss.
Oui, c'était dans le club de Tiller Liège. En fait, c'était le club de Jean-Marc Bosman. Donc, après la loi Bosman, en fait, il a eu des problèmes, il a été rétrogradé. Après, ils ont jumelé avec Tiller, donc ça s'appelait Tiller Liège, c'est en deuxième division.
D'accord. Bah merci beaucoup, Driss. Merci.
Voilà.
À très bientôt. À très bientôt.
Salut, mec.
Sur cet aspect de France, faire des touches au pied, moi je trouve beaucoup plus intéressant par rapport à ce jeu. Deux exemples. D'abord, ce que l'Islande a fait de ses touches classiques à la main pour en faire des combinaisons. Mmh. Et deuxième chose, pour ceux qui sont un peu plus âgés, moi, la première fois que j'ai vu un but consécutif à une touche, c'est l'Euro 88, et c'est l'Irlande, dans un match, je pense, contre les Pays-Bas, que l'Irlande remporte d'ailleurs, où il y a une très très longue touche qui arrive dans la surface, parce que c'est une touche qui était pour les Irlandais à hauteur de la surface et qui amène le but.
Il y avait Delap aussi qui était un spécialiste.
On est des innovateurs, mon pote, mais
Rory Delap, oui, évidemment. On est sur une touche à la main. Et je trouve que ce que l'Islande fait en 2016, avec de vraies combinaisons, avec un lanceur qui arrive comme ça à envoyer. Alors oui, ils vont chercher peut-être des touches un peu comme au rugby, mais c'était pas l'essence de leur jeu. Alors, mais ils avaient tendance à faire.
Quota aussi à Marseille, il y a eu 2-3 buts comme ça.
Alors d'accord, on va oublier cette règle là, même si elle pourrait arriver bientôt. C'est ce que vous nous avez dit, Ludovic Temes. Je rappelle donc que vous avez écrit un livre sur les modifications des règles. Il y a beaucoup de réactions. Il y a par exemple Pierre qui nous dit sur Direct Studio, je supprimerai les cartons jaunes et si la faute est avérée, le joueur il sort 5 minutes, bon voilà. Et il y a beaucoup de réactions aussi autour de l'arbitrage vidéo, parce que c'est vrai que l'arbitrage vidéo est une vraie révolution, Ludovic, mais du coup, là, on a l'impression que le board va être obligé de changer ses règles par rapport à certaines choses, notamment le hors-jeu, par exemple. On peut imaginer que le hors-jeu, aujourd'hui, on a vu en Angleterre, on en reparlera avec Julien Laurence, des hors-jeux jugés vraiment au millimètre. Est-ce qu'il ne faut pas changer cette règle à cause de la vidéo qui... parfois est critiqué là-bas, donc notamment en Angleterre et en France, bien sûr.
Alors, donc, la vidéo va peut-être faire changer les règles.
La règle de la main aussi, bien sûr.
C'est vraiment paradoxal. Donc, on est sur 4 actions pour le moment avec la vidéo. Bien sûr, ça va augmenter. Si on me demande mon avis, bien sûr, il ne fallait pas mettre la vidéo. Si je vous dis maintenant, bien sûr, ils vont pas la retirer et ça va augmenter les cas clair. Comme dans tous les autres sports collectifs. En hockey, il y avait juste sur la ligne de but, il y a eu 10 actions après. En basket NBA, il y avait 2 actions, maintenant il y en a 15. En rugby, il y a eu 2-3 actions au début, il y en a de plus en plus et on vient à 2 minutes de temps de jeu. Là, on est revenu jusqu'au milieu de terrain la dernière fois avec le Paris Saint-Germain. Donc oui, ça va augmenter.
Et est-ce qu'on Pardon, allez-y.
Je continue ma démonstration. J'essaye. Donc, effectivement, le penalty, on va regarder sur les coups francs parce que ça peut aussi faire basculer les matchs. Qu'est-ce qui nous empêche de regarder sur les coups francs? On a regardé sur les cartons rouges, mais les cartons jaunes est très important dans un match, parce que si on prend un premier carton jaune, ça change, le défenseur va plus jouer de la même façon et le deuxième sera peut-être encore plus anodin et on va finir un rouge. Donc on va regarder le carton jaune, on peut hein, bien sûr. Les touches, on va regarder si le ballon est sorti ou pas, ouais. Puisque ça change le match, puisque ça change le score du match. Le corner, c'est pareil. Il y a corner ou pas. Donc c'est des actions faciles, c'est 100%, il y a corner ou touche. Pour qui est la touche, c'est pas 100%, ouais. C'est déjà l'interprétation. Et là, ça commence à poser un gros problème. Le premier paradoxe, c'est que on va augmenter la part de la vidéo, mais on veut que le temps de jeu effectif augmente. Il y a un problème, c'est un paradoxe incontournable. Oui, ça, les vidéos va augmenter, on va pouvoir mettre des pages de pub dans cette vidéo, puisque ouais. C'est dans l'air du temps depuis 25 ans.
Et imaginez, du carton, imaginez s'ils mettent la pub. S'ils mettent la pub, c'est-à-dire que les arbitres auront même la pression, des pressions économiques, pour justement faire appel à la vidéo, pour que le quota de pub soit diffusé. Non mais on peut y penser à
mais
ça.
Mais la logique économique est déjà très présente. C'est-à-dire que le stade, c'est 100 000 euros.
Ça se passe pas comme
Il faut savoir que c'est 100 000 euros pour la goal line par stade.
Pour une publicité pour la goal line.
C'est 200. Non, pour installer la goal line.
Pour installer la goal line. Donc c'est beaucoup d'argent, ouais.
Et après la VAR, c'est 200 000 euros par stade. Donc bien sûr, on est dans une logique économique et extraordinairement placé. Après, on va jouer avec cette logique économique et on va pas faire marche arrière.
La VAR, elle est payée par les associations et les confédérations quand ils l'utilisent.
Donc 15 pays sur 200, on est bien d'accord aussi, à peu près.
15 pays sur 200, pardon.
Ouais, pas plus.
On est sur sur les 32 clubs qui sont qualifiés en Ligue des Champions et 64 en Europe. Alors l'Europe,
non, je parle des pays, des championnats nationaux, etc.
Il y a un truc qui met à la charge.
Et il y a que 15 pays qui l'utilisent, les plus riches, etc. L'Australie, les États-Unis.
Enlève de l'universalité du football.
Il y a une règle, moi j'aimerais bien l'avoir appliquée parce que sur les mains on n'y comprend rien. Alors ça a été quand même clarifié, hein, parce que a priori, en tout cas ils ont tenté de clarifier ça en disant bon voilà, quasiment toutes les mains sont sifflées sauf quand le joueur est à terre, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais on pourrait aussi, pour certaines mains ou certaines fautes dans la surface, proposer le coup franc indirect.
Alors la vidéo et la main, c'est vraiment un débat qui va être.
Par exemple.
Ah non, c'était tellement beau.
Non, c'est un scandale.
Non, mais donner un pénalty comme ça, c'est donner un cadeau à l'équipe.
Il faut bien réfléchir.
Alors qu'on n'est pas en position de marquer un but parfois.
La FIFA introduit le VAR. Eux, ils communiquent. On a 99% de bonnes réponses. Donc ça veut dire que effectivement, s'il y a main ou pas main, ça va les intéresser cruellement. Donc si l'arrêt sur l'image, ils peuvent montrer qu'il y a main ou pas main, c'est une aberration par rapport au football, par rapport à des défenseurs, etc. Est-ce que la main est volontaire? Est-ce qu'elle est intentionnelle, etc. Il y a toute une série d'indicateurs pour l'arbitre et c'est une décision difficile à prendre, on est bien d'accord. Et là, ils veulent que ça soit une décision à 100%. Donc, il y a main. C'est ce qu'ils ont décidé cette année pour les attaquants. Si l'attaquant touche le ballon dans la surface de réparation de la main, que ça soit volonté ou pas, il n'y a pas but. Et là, effectivement, ils pourront décider la même chose dans 2 ou 3 ans pour que dire, ah, la VAR, là, elle est très importante et c'est une décision, vous voyez mon raisonnement.
Je l'ai suivi avant que nous vous invitions. Ce sont des décisions qui ont un caractère aussi politique. Rapidement, l'IFAB s'est réuni au mois de mars et le 1er juin de cette année, donc on a eu le changement des règles sur ce qu'ils appellent les handball, les contacts main-ballon. Dans le football, pendant des décennies, il y avait une règle simple lié à l'interprétation, qui est l'essence même de l'arbitrage dans le football, c'était la suivante. Soit c'est un contact du ballon qui va vers la main, on ne siffle pas penalty, soit c'est la main qui va vers le ballon, on siffle penalty. Oui. Très bien.
C'est pas toujours très clair.
Ben, si tu prends l'exemple d'Abel Xavier sur la demi-finale
Portugal
à la Coupe du Monde 2006, on estime qu'il a tendu la paume de sa main pour stopper le ballon sur le centre de Wiltord.
Ouais.
Bon, mais c'était matière à interprétation. Maintenant, ce qu'a voulu faire, moi j'étais pro-vidéo, une fois que la VAR a été introduite après la Coupe du Monde 2018, je commençais à être vidéo-sceptique. Maintenant, je suis contre.
pour une bonne et simple raison, c'est que les arbitres, et alors après je peux le comprendre d'un point de vue humain, parce que quand vous êtes dans une profession qui se fait laminer sur 200 pays dans le monde, soit vous êtes masochiste, soit vous avez un vrai problème, ils se sont fait défoncer la gueule pendant toute l'histoire de ce jeu. Et ils ont décidé, il faut savoir que les gens qui dirigent l'arbitrage dans le monde sont les Italiens, aussi bien au niveau européen qu'au niveau mondial. Donc j'ai nommé Collina pour la FIFA et son nom m'échappe et vous m'aiderez peut-être pour l'UEFA. L'arbitrage en Italie, contrairement Boussaka. À ce qu'on a en Boussaka et Suisse, mais t'es pas loin, t'es chaud. Contrairement à ce qu'on a en Angleterre, dans les pays du Nord, ou bien même en France ou en Espagne, l'arbitrage en Italie est très tatillon. C'est plus que pointilleux. Et ils ont décidé d'appliquer de nouvelles règles par rapport à ces contacts main-ballon pour enfermer l'interprétation, pour la réduire et l'enfermer dans un carcan, pour mettre beaucoup plus de règles sur ces contacts. Est-ce que j'augmente ou pas la surface de mon corps par rapport à un contact avec le ballon? Si le ballon est touché par mon bras et que mon bras est au-dessus de mon deltoïde, c'est un pénalty. Ces choses-là ne servent qu'à une chose, à refiler la patate chaude au VAR et à eux, se protéger. Et ça détruit de plus en plus l'interprétation. Alors, après, c'était à l'aune de l'honnêteté ou pas de l'arbitre, mais ça détruit de plus en plus l'interprétation et on en arrive à des situations absurdes. Ouais. Absurdes.
Là, le débat, c'est pas sur le VAR, hein, c'est sur le foot du futur. Donc, on va pas refaire le débat,
VAR,
puisque
Ludovic... c'est le foot du futur.
Non, mais nous a dit effectivement que sans doute la vidéo allait se propager à d'autres actions.
Une expansion
a priori dans le foot du futur.
Le regrette aussi, hein, on est bien d'accord, hein,
j'étais pro vidéo au départ.
J'étais sceptique déjà dès le départ.
On va prendre Bruno au 32-16 pour d'autres propositions, puisqu'on vous a demandé de faire vos propositions. Salut Bruno.
Salut l'after.
Et salut à tous.
Salut Bruno.
Salut Bruno.
Merci.
Bonsoir Bruno.
Bonne fête.
Je vous remercie. D'abord, je voudrais faire un petit aparté, 10 secondes. J'ai entendu tout à l'heure la discussion au niveau du nombre de changements en 3 ou 4. Ouais. Il y a bien 4 lignes au foot.
Sauf que le gardien ne fait pas partie de ta composition tactique. Tu mets un goal quoi qu'il arrive, alors que tu peux mettre deux milieux, ou trois milieux, ou trois défenseurs, ou cinq défenseurs.
Il y a une équipe et un entraîneur qui mettra pas de gardien de but.
Espérons.
Non, c'est pas possible.
Le gardien de but, c'est le dernier rempart, et lorsqu'un gardien de but se blesse, et ça arrive, on n'a plus que deux changements possibles à faire sur le champ. Et ça, c'est embêtant.
D'accord. Donc ça, c'était la partie.
C'est la vie.
Maintenant, ta proposition pour l'autre. Maintenant, pour ton foot du futur.
Voilà. Le hors-jeu. Le hors-jeu, alors j'ai entendu dire tout à l'heure que c'était magnifique au niveau du hors-jeu, mais vous avez bien parlé à un certain moment. Aujourd'hui, il y a eu un truc débile où, parce qu'il paraît qu'il y avait une partie d'épaule qui dépassait le genou du défenseur.
C'était lors de Norwich-Tottenham, oui.
Ouais, ouais, exactement. Le but a été refusé. Je me souviens d'un but du PSG où il y a un bout de chaussure de Neymar qui dépasse. Le but est refusé. C'est débile. À une certaine époque, le principe était que s'il y avait doute, ça allait à l'attaquant et pas au défenseur. Donc là, on est arrivé à un truc trop pointilleux. Cet après-midi, ça a pris 3 minutes pour aller vérifier tout ça. Il y a un système qui existe aux États-Unis. Aux États-Unis, en hiver, tout au moins dans le nord des États-Unis, au Canada, on a l'habitude de jouer sur des espaces qui ont des formats de terrain de hockey et on délimite le terrain comme un terrain de hockey. C'est-à-dire qu'on a 4 zones et non pas 2 zones. Et on ne peut pas aller directement de la zone 1 à la zone 4 parce que si on va directement de la zone 1 à la zone 4, on a sauté 3 zones. Dans ces cas-là, il y a hors-jeu. Et ça va très vite quand vous jouez en indoor, parce que comme au hockey, le ballon peut rebondir sur tous les côtés. C'est pas l'indoor soccer, c'est pas la même chose que le foot indoor que vous avez en Europe. Donc on joue avec les bandes, on joue avec tout ça, et il y a énormément de rythme. Un arbitre, il a énormément mal à aller voir s'il pouvait y avoir hors-jeu ou pas hors-jeu ou quoi. Et ce système-là, eh ben, ça permet d'être fiable, parce que on voit d'où le ballon est parti, on voit où il est arrivé. Bah, s'il a fait trop de lignes, il y a hors-jeu, point final, terminé, on repart dans l'autre sens.
Non mais hors-jeu, c'est le ballon mort.
Ouais, non mais t'auras toujours le problème du joueur qui a pris le ballon sur la ligne exactement, donc t'auras toujours ces soucis-là. Et c'est des jeux que tu fais à l'entraînement, hein, généralement, quand t'es avec les équipes pro. C'est-à-dire que parfois, justement, pour te forcer à passer par les milieux de terrain, eh ben, tu as interdiction de jeu long et de passer de ta zone défensive à la zone offensive, par exemple. Voilà, c'est un peu ce style de jeux qui sont déjà en place aux entraînements, je parle. Après, mettre ça en compétition.
Je suis d'accord avec toi, mais quand tu te rends compte qu'au hockey, ils arrivent à le voir, et au hockey, ça va très vite en patinant, très sincèrement, moi, je suis resté 8 ans aux États-Unis, hein, donc on n'a jamais eu de problème là-dessus. On arrive à voir, franchement, s'il est sur la ligne ou pas sur la ligne. Quand tu es sur la ligne, de toute façon, tu fais partie de la zone suivante. Donc,
t'as trois arbitres, ok, hein, pour une surface qui est vraiment réduite, et t'as que 5 joueurs, il me semble.
À cause de l'utilisation de la VAR, moi j'écoute religieusement les gars, mais à cause de l'utilisation de la VAR qui sur ce sujet du hors-jeu à 1 mm, pour ou pas, là, c'est ridicule, on en arriverait à changer la règle même du hors-jeu qui, je le répète,
bah on va demander
fait,
à Ludovic
tout le travail
si la règle du hors-jeu qui est quand même la règle fondamentale du football peut être modifiée.
Alors ça a déjà été modifié la dernière fois, c'est en 2005, l'hors-jeu passif, hein, donc ça date pas non plus d'il y a 300 ans, hein.
Modifié et en donc, profondeur, comme dit Bruno.
Effectivement, ridicule les hors-jeux de 2 cm, 3 cm quand on sait qu'il faut caler une image, que si on prend l'image d'avant ou l'image d'après, c'est 17, 18 cm.
On appuie, au moment où il appuie aussi
tout
sur
à fait, c'est ce que je dis, pour caler l'image. Donc si vous caler l'image d'avant ou après, il a fait 17 cm, donc complètement ridicule. Et en plus, l'épaule, le pied, la poitrine, etc. Il faut, je pense que ça va changer, parce qu'à un moment, il va falloir quand même qu'ils disent où c'est le pied du joueur, où c'est. Et bon, là, c'est pas très net, effectivement, parce que les discussions sont je dirais pas quotidiennes, mais tous les dimanches, quoi.
Après, Ludovic, je pense que quand on parle du hors-jeu, c'est un cas qu'on peut mettre un petit peu à part par rapport à la vidéo, et où je pense que l'assistance technologique, comme quoi je suis pas totalement réac, l'assistance technologique peut aider, parce que c'est une règle, et objectivement, on est hors-jeu ou on n'est pas hors-jeu. Si le cadre est bien défini, si on dit c'est le pied ou l'épaule ou peu importe, ou le nez ou un peu voilà, sans, si on dit c'est ça qui doit être derrière la ligne, je pense que c'est oui ou c'est non. Ça ne fait pas appel à l'interprétation de l'arbitre. Et là, en fait, ce que la VAR, le problème de la VAR que j'ai avec la VAR, avec les outils technologiques, c'est qu'on retire cette capacité d'interpréter que devrait avoir l'arbitre. D'ailleurs, c'est un arbitre, ce n'est pas un juge qu'on a au football. C'est un arbitre donc qui interprète de manière arbitraire.
Là, je me
mais l'hors-jeu, c'est comme pour moi, c'est comme il y a but ou il y a pas but. Ouais. Tu vois, il y a hors-jeu, il y a pas hors-jeu, et il y a but ou il y a pas but.
Je me projette encore plus loin. Est-ce qu'on pourrait imaginer un football qui est arbitré uniquement en cabine et qu'il n'y ait plus d'arbitre sur le terrain?
On verrait plus des attroupements, on verrait plus de bagarres, hein, ça serait triste.
Non, mais là, on en vient à ça, puisque l'arbitre devient finalement.
Alors, je pense qu'on en vient pas tout à fait à ça, et il faudrait surtout pas en venir à ça, on va mettre les choses. Il faudrait surtout pas, mais il faut bien savoir qu'à l'origine, pas d'arbitre. Le trio arbitral 1891, on a ajouté un siècle plus tard un quatrième arbitre pour voir ce qui se passait vers les bancs de touche, en clair, c'est un peu ça, c'est pour ça. 5 arbitres. 2014, quoi. Et là, maintenant, peut-être table de marque si on regarde le temps de jeu effectif. Donc, de plus en plus d'arbitres, comme on voit au football américain, 7 arbitres, etc. Donc, ben, je sais pas, c'est Giroud qui disait plus il y a d'arbitres, plus il y a d'erreurs. Hein.
Mais ça ne questionne même pas, Ludovic. C'est-à-dire que l'arbitre est. On ne peut pas faire un match de foot sans arbitre. L'arbitre n'est pas un élément du jeu, mais c'est un élément déterminant du match. Tu peux pas arbitrer.
Il y en a de plus en plus.
Tu disais pas sans arbitre, François. Toi, tu disais les mecs en cabine.
Les vidéos. Mais là, je pousse plus loin le raisonnement, puisqu'on parle de la vidéo dans le football. Et effectivement, parfois, on a l'impression que l'arbitre ne sert à rien. Ou en tout cas, est juste là pour exécuter les ordres et les actions de
refile la patate chaude au VAR. Et en fait, il faudrait une tolérance. C'est-à-dire que leur jeu, c'est comme le temps de réaction en athlétisme ou en natation. Là, il faudrait 25 ou 30 cm. S'il n'y a pas plus de 25 ou 30 cm, ben, ça doit bénéficier à l'attaquant. Donc, il faudrait une tolérance pour que on doit savoir la marge, etc. Là, à 2 cm près, oui. Ça paraît surprenant.
Alors, on va remercier Bruno d'être passé dans l'after. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour ta proposition. À bientôt.
Merci Bruno.
Salut. Et puis juste
pour vous rappeler quelque chose si c'est possible avant.
Ben alors vas-y Bruno. Tu peux.
Là vous êtes en train de parler de la VAR. Moi je voudrais vous rappeler qu'on est en train de parler de football, d'accord? Dans le football, c'est le football en général. Faut pas penser qu'au football des élites qui a la VAR, parce que même en Ligue 2 à l'heure actuelle, il y a pas la VAR.
Raison,
en national, il y a pas la VAR. Et en amateur, il y a pas la VAR. Mais tout le monde a les mêmes règles. Donc il faut que avec les arbitres qui se trouvent en L2, en national, en amateur, les arbitres arrivent à gérer facilement le jeu. Je suis désolé, eux, ils n'ont pas de VAR.
C'était l'un des arguments de Michel Platini, justement, contre la VAR.
Oui, parce que c'est
un football universel.
Exactement. Merci beaucoup, Bruno.
Bravo, Bruno.
Merci.
Salut.
Je vous en prie.
À très bientôt. Merci, juste pour finir, Ludovic Tenez, je rappelle, donc, et si on modifiait vraiment les règles du foot, est-ce que vous êtes confiant pour le foot du futur?
Oui, je suis très confiant pour le futur.
Vous n'avez pas peur qu'il soit dénaturé justement par le changement de
de règles, comme vous l'écrivez dans le livre ?
Dénaturé par la VAR, ça c'est sûr, puisque c'est une grosse machine qui s'est mise en route. Hein, et Michel Platini nous l'avait dit, hein, si on met un doigt dans l'engrenage de la VAR, ça serait compliqué et ça va devenir de plus en plus compliqué.
Mais
pour
vous
le
êtes
football.
Quand même confiant ?
Je suis confiant, puisque tout le monde adore le football, c'est un sport miraculeux, que tout le monde apprécie, c'est un grand spectacle.
Mais vous êtes confiant, Ludovic, quand on risque très fortement d'avoir une Coupe du Monde des clubs à 32 équipes
qui alors, va oui, ça, c'est
épuiser
un
les joueurs,
aurait, aussi
une Coupe du Monde peut-être
futur.
En 2026 ou 2030 avec 48 sélections. Je veux dire, ce qui fait la beauté aussi de ce sport, et c'est pas une vision angélique que j'ai, moi, c'est une vision sportive, c'est la rareté. Maintenant, on va aborder à partir du mois de février la phase d'élimination de la Ligue des Champions. C'est tout ce qui fait le sel du football. Ouais.
C'est ce que je regarde. C'est ce que je regarde.
Mais
le
ça
plus.
Pour toi, on aura l'occasion d'en parler dans l'after. Effectivement, le foot du futur. Est-ce que, d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser, les championnats nationaux existeront dans plusieurs années? Parce que
il y aura peut-être une ligue européenne avec les 20 meilleurs clubs.
Effectivement, tout ça peut changer. Et puis la façon de regarder le foot aussi va peut-être changer. Hein. Des casques virtuels, on sera avec les joueurs. Ça pourrait être formidable. Non,
non,
ça vous emballe
non.
pas. Bon,
ouais.
Très bien.
Stop.
Ouais,
pourquoi pas.
On va aller à Burnley, Manchester United, Clément Brossard. Où on en est ?
À 7 minutes de la fin, on s'ennuie ferme pour rien de vous cacher. Manchester qui assure l'essentiel pour l'instant, les Red Devils qui mènent un but à 0 face à Burnley, le buteur, le français Anthony Martial, 44e minute.
Merci beaucoup Clément, merci beaucoup Ludovic d'être passé par l'after. Merci, c'était très intéressant. Et si on modifiait vraiment les règles du foot aux éditions de l'Armatan, vous pouvez continuer sur le hashtag RMC Live à nous faire vos propositions. Merci encore. On revient dans un instant. Je vous rappelle aussi l'information du jour. Jardim limogé, remplacé par Robert Moreno. Il y a quelques infos que je vous donnerai dans un instant sur l'arrivée de l'Espagnol Robert Moreno. Et dans un instant aussi, on parle de Florian Thauvin en 2020. C'est son année. À tout de suite.
RMC. L'After Foot. François Pinet.
De retour dans l'after, 22h30, Jonathan McCarty, Damien Perrinel, François Manardeau. On a refait le foot du futur. Vous pouvez réécouter ça en podcast, bien sûr, sur le podcast de l'after. Dans un instant, on va désigner l'équipe type de la décennie parce que bientôt nous sommes en 2020. Et vous pouvez aussi venir nous donner votre 11 au 32-16 et sur le hashtag AMC Live sur Twitter. T'as quelque chose à dire?
Envoyez-nous vos 11 de, pas forcément aussi, pas forcément les meilleurs joueurs, objectivement, oui. Mais vos préférés.
Oui, voilà.
Donne une petite,
coup de cœur.
Voilà.
Ou tout
c'est
ça,
cool,
voilà.
Ça, je trouve.
Tout à fait. Burnley, Manchester United, c'est de la première ligue, 20e journée. Où on en est, Clément Brossard?
Il reste 4 minutes à jouer. Pour l'instant, les Red Devils mènent un but à 0 grâce à Anthony Martial. Il y a eu peut-être une opportunité ou deux pour les Mancuniens de prendre l'avantage. Mais Anthony Martial, une nouvelle fois, a trop tergiversé devant Nick Pope pour venir tromper le gardien de Burnley qui n'aura rien montré ce soir, si ce n'est peut-être une ou deux opportunités. Mais c'est un match pauvre dans tous les sens du terme. Manchester United qui fait le boulot pour l'instant, qui est en train de prendre sa 5e place en première ligue. Manchester qui mène un but à 0 à 3 minutes du terme de cette rencontre.
Et on parlera de la première ligue et de cette 20e journée marquée notamment par le match nul entre Norwich et Tottenham, marqué aussi par la victoire d'Everton à Newcastle et par la VAR qui a été l'homme ou la femme, ou enfin en tout cas le grand bonhomme de cette journée en première ligue. On en parlera avec, je sais pas comment on dit, si on dit la VAR ou le VAR, donc on dit quoi. Voilà.
C'est vrai, t'as
en tout cas, ça a été le héros de cette journée, malheureusement, en première ligue. On en parlera avec Julien Laurence à 23h. Quelques infos à vous donner avant de parler de Florian Thauvin sur donc l'arrivée, c'est officiel, de Robert Moreno qui remplace Leonardo Jardim à la tête de l'AS Monaco. Juste pour vous préciser que les proches adjoints de Leonardo Jardim vont quitter également l'AS Monaco. Il arrivera, l'Espagnol, avec 4 adjoints. Et si le choix s'est tourné vers Moreno alors que la piste Marcelino avait bien été activée, c'est parce qu'il s'agit d'un entraîneur motivé, déterminé à prouver qu'il peut être à la tête d'un club et ne pas se cantonner au rôle d'adjoint, puisqu'il a été longtemps l'adjoint de Luis Enrique avant de prendre en tête la tête de la sélection espagnole. C'est un passionné qu'entraîne depuis longtemps malgré son jeune âge de 42 ans. Et c'est un entraîneur aussi qui travaille beaucoup plus la préparation physique que ne pouvait le faire Leonardo Jardim, qui avait été critiqué récemment.
Tu nous lis le communiqué officiel
du
club.
Non, je vous lis les infos qu'on a pu glaner autour de l'arrivée de Robert Moreno.
Ça nous vend du rêve. Presque au communiqué officiel de la SM.
En tout cas, Jardim va lui bien partir avec 8 millions d'euros annoncés. Ce sont les indemnités.
Joyeux Noël, Jardim. Voilà.
On parle de Florian Thauvin qui va reprendre lui la course mercredi prochain. Il devrait revenir à l'entraînement avec le groupe que fin janvier, début février. Peut-être pour jouer un match mi-février. En tout cas, le joueur de l'OM a été opéré de la cheville en septembre dernier. Et il est très attendu pour permettre à l'OM de rester sur le podium. Jonathan, pour toi, c'est le joueur qui joue très très gros. Sans doute aussi dans la perspective de l'Euro.
Maintenant là ?
Oui.
Oui.
Il attendait son jingle.
Mais on va l'avoir le jingle.
Bon. Comme dans un couple, quand t'as Dana, tu la vois tous les jours, je commence à plus voir quand elle est mal rasée.
Ce soir, il nous avoue, il aime les travaux.
Oui, non, c'est des conneries, ça.
C'était essentiel en plus.
Oui, essentiel. Non, bah alors, écoute, oui. Quand on regarde, en fait, la saison de l'OM, tu te rends compte que ce que fait André Villas-Boas avec ce groupe-là, c'est quand même exceptionnel parce que t'arrives à être deuxième sans ton meilleur joueur. Parce que, évidemment, Florian Thauvin est le meilleur joueur, potentiellement, et il l'a déjà prouvé, de l'Olympique de Marseille. Son retour, en fait, il pose deux questions. La première, c'est de savoir quand est-ce qu'il va revenir en forme. Parce que s'il reprend effectivement l'entraînement collectif mi-janvier, à partir de quel moment dans la saison l'Olympique de Marseille va pouvoir compter sur un Florian Thauvin à 100%? D'une manière très réaliste, il ne va pas falloir s'attendre à ça avant mars. Le temps qu'il reprenne le rythme, il a été absent très longtemps. Mmh. Le temps qu'il s'adapte, le temps qu'il reprenne ses marques, le temps qu'il refasse une condition physique correcte.
Ce réathlétisme.
À mon avis, ça va être, allez, mars, on va être optimiste, mais ça restera, quoi, allez, 3 mois de Ligue 1 pour apporter sa patte à la saison de l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est une vraie question. La deuxième question, ça va être quid de son entente avec Dimitri Payet et avec Pipa Benedetto. Pour moi, j'ai un avis sur la question. Je pense que les trois ensemble, si les trois sont en forme, ça peut être extraordinaire. Mais il va quand même falloir trouver ses marques. On a encore en tête la manière dont il s'était adapté intelligemment, je trouve, l'année dernière à Mario Balotelli.
Oui, même beaucoup si ses stats avaient baissé.
Voilà, beaucoup de gens lui avaient tapé sur le dos en lui disant oui, mais il marque pas autant de buts. Oui, mais non, mais faut voir le travail collectif et les sacrifices qu'il faisait pour ce numéro 9 qui était Mario Balotelli, qui est bien moins compétent collectivement que Pipa Benedetto. Pour moi, les trois ensemble, Payet, Thauvin, Benedetto, ça peut faire de l'Olympique de Marseille la meilleure attaque de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain est hors course, mais ces trois-là, ça pue le foot et les trois ensemble, ça peut vraiment très bien marcher. D'ailleurs, une petite indiscrétion, je sais que Jérôme Bretagne nous disait qu'il lui avait parlé à Flo Thauvin et que oui, lui, il avait vraiment envie de jouer avec ces trois joueurs-là. Donc déjà, c'est un signe positif. Mais à quel moment il va revenir en forme? Et pourquoi ces questions sont importantes? C'est pas tant pour l'Olympique de Marseille qui a montré que bon an mal an, même si parfois dans le contenu c'est pas toujours ça, Marseille était capable de faire des grosses séries. Marseille était capable de gagner des matchs sans son meilleur joueur. Il y a des joueurs qui se sont allés, on va dire, révélé sans trop exagérer non plus en la personne, je pense à Radonjić, mais les enjeux, ils sont pour lui. Pourquoi ? Premièrement, contractuellement, on sait qu'il va être en fin de contrat, pas cette saison-là, mais l'autre. Donc s'il y a un départ à gérer, c'est maintenant. On sait que les discussions, quant à une prolongation de contrat avec le club, je dirais pas qu'elles sont bloquées, mais ça tarde un petit peu à venir. Là, c'est la saison. Si on regarde dans, tu vois, sur le temps long de la carrière de Florian Thauvin, on sait que c'est cet été qu'il doit partir.
Est-ce qu'il va 27 ans en janvier.
C'est ça. Et surtout contractuellement. Est-ce que vraiment, en faisant 3 mois, tu vas pouvoir avoir un club qui va être à la hauteur de ses attentes? On sait que l'intersaison dernière, il était à l'écoute d'offres et les offres qui correspondaient à ce que lui espérait ne sont jamais arrivées. Là, pour moi, ces 3 mois, elles sont capitales pour lui parce que c'est là où vraiment il va pouvoir, tu vois, il doit montrer qu'il mérite un club un petit peu plus, d'un standing un petit peu meilleur que les offres qu'il a eues précédemment. Le deuxième point, peut-être que c'est un petit peu illusoire maintenant, mais c'est l'Euro. C'est quand même un joueur qui était dans le groupe de l'équipe de France. On sait que Didier Deschamps privilégie la vie de groupe, la cohésion de groupe. On sait que Florian Thauvin, c'est un élément qui est positif dans le groupe, qui s'entend bien avec l'ensemble des joueurs qui composent ce groupe France. Donc même si là, il parle de très 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 loin et qu'il est très en retard comparé à beaucoup d'autres joueurs, il a quand même sa carte à jouer. Et vis-à-vis de son transfert possible, et même qui c'est pas possible, c'est un transfert qui va avoir lieu à 80-90% de chance, c'est important pour lui d'attraper le wagon de l'équipe de France ou du moins de se repositionner comme un international potentiel. Donc je pense que les 6 mois qui vont venir à partir de maintenant, à partir du moment où il reprend la course, à partir du moment où il réintègre le groupe, à partir du moment où il rejoue son premier match et à partir du moment où il redevient performant après s'être, comme François l'a dit, réathlétisé, c'est les 6 mois les plus importants de sa carrière parce que c'est un joueur qui a plein de bonne volonté, qui a plein de talent, qui pour l'instant, à mon sens, n'a pas encore eu la carrière et le niveau qu'il aurait dû avoir comparé à son potentiel, même si voilà, je dis pas que c'est un crack niveau Ligue des Champions, mais je pense par rapport aux attentes qui l'entouraient lorsqu'il arrivait à Marseille après son transfert un petit peu bras de fer avec le LOSC. Pour l'instant, je pense que son départ à Newcastle lui a fait beaucoup de mal. La progression n'a pas forcément été linéaire. Et si à un moment, un instant T à saisir pour Florian Thauvin dans sa carrière, pour faire passer sa carrière au niveau supérieur, c'est maintenant. Ouais. Donc il a 6 mois pour arriver à cela. Donc bonne chance Flo et l'Olympique de Marseille compte sur toi.
Thauvin, de retour à Marseille bientôt. Donc on l'a dit, Damien, je ne sais pas si toi t'as... T'as été joueur, tu sais que c'est peut-être long. Est-ce que l'OM va vraiment pouvoir compter sur lui pour cette deuxième partie de saison?
Bah après, je trouve que Jonathan a assez bien résumé la situation, de toute façon, dans laquelle se trouve Tovin. Le souci, en fait, c'est que surtout, c'est pas une blessure musculaire qu'il a eue. Il a eu une opération de la cheville. Et il y a qu'à voir, hein, même juste quand on se fait une simple entorse de la cheville, on peut jouer certainement au bout de 2-3 semaines. Mais on retrouve vraiment une flexion au niveau cheville, une élasticité. Au bout d'un mois et demi,
t'as
deux mois.
T'as eu ça, Damien?
Bah, les entorses cheville, j'en ai eu pas mal.
Opération de la cheville, t'as eu?
Non, mais par contre, moi, j'ai eu un pote, un très bon pote, Grégory Thiel, qui s'est fait.
Bien sûr, on se rappelle, ouais.
À Boulogne. Boulogne, ouais. Qui se fait la cheville. Mais en fait, les sensations. Il a mis un an ou un an et demi. Vous pouvez vraiment des sensations, et encore, c'est jamais parfait. T'as toujours pareil, une flexibilité qui est différente. Tu vois, c'est pas un long fleuve tranquille pour revenir sur le terrain.
Et on parle d'un joueur qui
on va juste aller à Burnley, Manchester United. Il y a un but, Clément Brossard.
Le succès entériné pour les Red Devils sur un contre ravageur. On a joué le Vatou côté Burnley. Tout le monde était devant. Et du coup, une perte de balle a profité à Manchester United et a profité à Marcus Rashford de marquer ce deuxième but pour les Red Devils. La cinquième place est assurée pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Marcus Rashford marque à nouveau, Martial et Rashford, les deux hommes en fort de Manchester United, répondent présents ce soir. Victoire qui se dessine 2-0 de Manchester à Burnley. Il reste 10 secondes à jouer, même pas, on va jouer l'engagement et ce sera terminé ici à Burnley.
Merci beaucoup Clément, on te retrouve pour la fin de la rencontre, dès le coup de sifflet final évidemment, et puis on retrouvera Julien Laurence pour revenir sur la victoire et sur le but de Martial. Tu voulais rajouter quelque chose
un petit truc justement sur ses retours de blessure. Ça va être, il va être important pour lui non plus de pas se précipiter plus que ça. Alors ok, c'est une course contre la montre, il y a le premier match de l'Euro qui est le 16 juin contre l'Allemagne, et tout ça, il y a la liste de Didier Deschamps avant. Mais surtout, sois à l'écoute de ta cheville, te précipite pas. Le plus important, c'est que tu retrouves de bonnes sensations rapidement. Et si c'est pas début mars, c'est pas grave. Au mois d'avril, ça peut le faire. Et t'auras peut-être le temps d'accrocher quand même le bon
c'est
wagon.
C'est plus pour son contrat, en fait, l'enjeu, je pense. Parce que dans son plan de carrière, c'était vraiment là, je fais une grosse saison avec l'OM et je pars à la fin de l'été.
Ouais, mais après s'il fait un euro. De toute façon, à sa chance.
Bien sûr,
aussi.
Bien sûr.
Est-ce qu'il a encore des chances de faire l'euro? 2-0 hein, pour Manchester United à Burnley. On y reviendra dans 3 heures.
D'être dans le groupe.
Là, on parle. Alors,
d'être dans le groupe et jouer, ce qui c'est très différent.
Alors, il y a deux possibilités. D'abord, on parle quand même d'un joueur qui a loupé 6 mois. On parle pas comme d'un Pogba, puisqu'on a Manchester United avec nous et il y joue pas ce soir, mais d'un joueur qui a loupé un mois et demi. Non, 6 mois, c'est énorme. Il faut qu'il redevienne véritablement un athlète. Après, il y a la question de sa cheville. Je parlais d'un joueur aussi qui a une grande laxité, comme beaucoup de gauchers. Donc, il faudra qu'il la retrouve. Ça va pas se faire en 3 mois. Et après, l'Euro. Alors, soit il le reprend pour faire le nombre, parce que c'est tout sauf un footeur de merde, et ce sera toujours aussi important de l'avoir dans un groupe de 23 qui est évidemment un des favoris de cet Euro, donc on peut penser que l'équipe de France fera un long parcours à l'occasion de cette compétition, même si le groupe est relevé. Et là, tu peux avoir besoin de ce Flotovin qui va avoir la banane, qui va pas t'emmerder, qui en plus, parce qu'il sera diminué, mais quand même, le sélectionneur, qui est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, il a peut-être aussi besoin d'un Flotovin qui soit en pleine possession de ses moyens. Parce que vous imaginez comment d'autres pourraient le percevoir.
Et même en pleine possession de ses moyens, il est derrière Martial actuellement, malheureusement.
Que tu prennes un joueur qui a eu cette blessure-là, qui peut revenir, mais on le sait tous. Mars, Jonathan, c'est optimiste.
Ouais.
Tu l'as dit,
c'est très meilleur des cas. Meilleur des cas, j'ai dit.
Optimiste. En revanche, sur la question du transfert, moi, je me fais aucun souci parce que c'est un joueur qui est évidemment connu de tous. La seule bonne nouvelle pour les clubs qui voudront aller le chercher à l'Olympique de Marseille, ça coûtera peut-être un peu moins cher que s'il avait été en pleine bourre toute la saison.
D'accord.
Après, on a eu pour l'équipe de France des exemples, notamment Deschamps n'a pas hésité à ne pas utiliser Varane lors de l'Euro, il allait rater les deux premiers matchs.
Il n'était pas à 100%.
Il me semble qu'Ochenny.
Il veut prendre des hommes à 100%.
Exactement. Il veut prendre des joueurs sur qui il peut compter, même s'ils ont la banane et que ça se passe bien dans le groupe.
Il a encore du temps. Mars, avril, peut-être que
pour jouer,
il fait des belles prestations.
Mais d'être à son meilleur niveau.
Ouais. Et pour qu'il soit pris à l'euro, il faut qu'il soit vraiment à son meilleur niveau parce qu'il est loin. Et juste, par rapport à ce que je dis, je fais pas de soucis pour son transfert. Faut voir les choses en face. L'été dernier, il a pas eu d'offre.
Ouais.
alors qu'il sortait quand même d'une belle saison.
Très surprenant.
Il a eu 0 plus 0 la tête à Toto comme off.
C'est très très surprenant.
Bon, on revient dans l'after dans un instant puisque vous êtes nombreux 32-16 pour nous proposer votre 11 de la décennie. Et oui, on est bientôt en 2020, donc on va faire ensemble l'équipe type de la décennie des 10 dernières années. On revient avec Jonathan, avec Damien et avec François. A tout de suite sur RMC.
RMC. L'afterfoot, François Pinet.
22h44, on est ensemble jusqu'à minuit pour l'after. On est ravis de vous retrouver, évidemment. Pour ceux qui nous rejoignent, on a parlé de Florian Thauvin à l'instant. À 23h, on parlera de la Première Ligue, 20e journée, avec notamment la victoire à l'instant de Manchester United à Burnley, avec un nouveau but d'Anthony Martial, dont on va reparler avec Julien Laurence. On en parlera peut-être aussi pour l'Euro 2020. Justement, 2020, on y est bientôt. On vous propose ce soir l'équipe type de la décennie. Alors, ça peut être l'équipe type des meilleurs joueurs, hein, Jonathan, mais ça peut être aussi votre équipe type à vous, celle
de cœur.
De cœur.
De cœur, ouais.
Voilà, des joueurs qui vous ont marqué ces 10 dernières années. C'est pas forcément toujours le meilleur joueur. Vous pouvez venir au 32-16 nous donner votre équipe. Dans un instant, on aura Slim qui va nous la donner. Mais on peut commencer par vous, messieurs. Qui a fait son petit devoir, là? J'ai l'impression que tout le monde l'a fait. C'est bien.
Attends, le double devoir.
Bah, vas-y alors.
Le cœur et l'équipe de la décennie. Et
d'un point de vue... Commençons par l'équipe de la décennie.
Sur l'équipe de
la décennie,
les meilleurs
joueurs, je pense qu'on va tous être à peu près d'accord.
Oui, on va être d'accord parce qu'elle a un fort accent espagnol. Pour moi, le club de la décennie, c'est le Barça, parce que je pense que c'est avec l'Ajax au début des années 70, c'est sans doute ce qui s'est fait de mieux dans le jeu en matière de foot. Donc, j'ai fait un 4-3-3. Mon trio, c'est la MSN, Neymar, Suarez, Messi. Mes trois milieux, je mets Iniesta. J'ai rajouté un joueur espagnol, mais qui s'est très très bien exporté, c'est Xabi Alonso. Et puis, vraiment, en sentinelle pure, un petit cocorico, je mets N'Golo Kanté. Et mes quatre derrière. Alors, j'avais une hésitation sur le poste de latéral gauche entre Marcelo et Jordi Alba, sauf que Marcelo, dans la décennie, il fait une Coupe du Monde 2014 pourrie au Brésil.
Ouais.
Donc, ah bon. J'ai mis Alba.
Ouais, ouais.
Sergio Ramos piqué.
Il a été champion plusieurs fois aussi, Marcelo.
Ouais. Si on parle de ce que tu as gagné et de l'équipe qui t'a fait.
Il était important dans l'équipe du Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions.
Je te dis que j'ai une hésitation sur l'équipe de la Ligue.
Non, mais tu as le droit d'avoir une hésitation, tu as le droit, tu as choisi Alba.
Okay. J'ai le droit. Sergio Ramos piqué. Et puis, au poste de latéral droit, ma foi, Dani Alves aussi. Parce que
pas Philippe Lahm.
Ouais, on peut hésiter.
Et le gardien,
Daniel Alves.
Le gardien,
il a oublié
Neuer.
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 Obligé, pas forcément.
T'as pas mis Neuer? Donne-nous la tienne, François. Allez, François, donne-nous la tienne.
Moi, j'ai mis dans les buts, mais c'est vrai que c'est un peu un mix. C'est un peu du cœur aussi.
Pas,
c'est le cœur qui a parlé, mais j'ai mis Buffon. Voilà. Parce que c'est le gardien.
Sauf qu'il est à cheval sur deux décennies.
C'est pas un scandale non plus.
À droite, j'ai mis effectivement Lahm. En défense, Ramos. Et alors j'ai mis Van Dijk, qui est récent, oui, c'est vrai, oui, mais oui, qui, oui, pour moi, une sorte de révolution à ce poste de défenseur central. Ouais. Marcelo à gauche, ensuite un milieu de terrain avec Iniesta, Modric et Pirlo en sentinelle, parce que Pirlo à la Juve, c'était quand même quelque chose. Messi, Cristiano, évidemment, pour moi, ils sont incontournables. T'as pas mis Cristiano Ronaldo dans ton 11, d'ailleurs. Et Benzema, qui fait partie de ce 11 de la décennie. C'est un peu cocardier peut-être, mais pour moi, quand même, sa légitimité au Real Madrid, ça lui permet d'être dans ce 11. Voilà. Ça vous va ou pas?
C'est bien, oui.
Oui.
Allez, le tien, Damien.
Moi, c'est Neuer dans les buts, forcément. Parce que, de toute façon, j'ai dit que c'était le meilleur gardien de la décennie il y a 3 jours. Donc,
je vais pas mettre quelqu'un d'autre.
Non, mais Neuer, c'est très bon.
Ouais. À droite, je mets Dani Alves, parce que, bien sûr, il y a le Dani Alves du PSG, mais franchement, il a révolutionné ce poste au Barça pendant longtemps. Alors, Philippe Lahm est un choix totalement cohérent aussi. Hein. Ensuite, voilà, on doit faire des choix. Et ensuite, moi, j'ai un cocorico derrière, je mets Varane Ramos. Parce que c'est justifié en nom, même aussi bien les titres, tout ce que tu veux, et il dégage quelque chose qui fait qu'il a pas assez de reconnaissance, je trouve, parce que c'est pas assez une grande gueule, tout ce qu'on veut. Marcelo à gauche, parce que moi c'est ce joueur qui me fait kiffer en tant qu'arrière gauche depuis Roberto Carlos, en fait. Et puis ça respire tellement la joie de vivre sur le terrain. Enfin voilà, j'aime ce genre de comportement. N'Golo Kanté en 6. Pourquoi? Parce qu'au-delà du footballeur, son parcours, ce qu'il représente, et puis surtout, il en faut un qui court pour les autres avec le quatuor offensif que je vais mettre en place. Iniesta, parce que encore une fois, ça sent le football. Côté gauche, je mets, ou alors j'inverse avec Cristiano. Cristiano à gauche, Hazard dans l'axe avec Messi et Arjen Robben côté droit.
Arjen Robben.
Tu mets pas Messi.
Ça fait plaisir. Non,
t'as mis Messi ou tu le mets?
Oui, ça fait plaisir que t'aies mis un mec du Bayern qui, pour moi, le Bayern qui est avec des chevrons, c'est la plus belle équipe de la décennie, quoi.
Arjen Robben.
J'ai pas pris celui-là, moi.
C'était fort.
Robben, oui,
c'est moi, j'ai pris, ouais. C'est bien qu'il y ait un mec de cette équipe du Bayern qui est la Ligue des Champions. Bah, j'ai pas pris lui, mais.
L'âme, il a gagné la Ligue des Champions.
L'âme, oui. Moi, j'ai hésité à un moment donné avec Alaba aussi, ouais. Mais bon, j'ai choisi.
Ouais.
Et Jonathan, ton équipe?
Neuer dans les cages, Ramos, Van Dijk en charnière, Marcelo à gauche, Philippe Lahm à droite, Busquets devant la défense avec Xavi, Iniesta.
Ah oui, donc c'est le milieu de du Barça.
Obligé. Moi, j'ai été obligé de mettre pour moi le joueur qui aurait dû vraiment avoir le Ballon d'Or et qui pour moi, à mon sens, était le meilleur joueur du monde l'année où son équipe gagne la Coupe du Monde. J'ai mis Thomas Müller. Thomas Müller avec Messi et Ronaldo. Et je suis désolé.
Non, mais...
pour moi, c'est un moment, l'année où l'Allemagne gagne la Coupe du Monde et où le Bayern gagne la Ligue des Champions, c'est le meilleur joueur du monde. Parce que, outre, on ne parle pas de statistiques comme Messi ou Ronaldo peut avoir, c'est sa capacité à bonifier les autres et à fluidifier le jeu collectivement. Alors, on a encensé Xavi et Iniesta, mais je pense que quand tu regardes ces deux saisons-là de Thomas Müller, il est fabuleux. Sans ballon, ses déplacements, ce mec-là, à ce moment-là, c'est un génie, c'est un architecte. Sur le terrain.
Pourtant, en termes de style, c'est pas.
Désolé, pour moi, c'est un génie
du milieu de terrain.
Regarde juste, après, regarde ses matchs, tu le vois dans ses déplacements, c'est un génie pour moi.
On est tous d'accord pour dire qu'on est vraiment des questions stylistiques à ce niveau-là de qualité de joueur, évidemment.
Je pense que c'est le joueur le plus intelligent avec Xavi Iniesta qui est joué dans les années 2010. Xavi, Iniesta, Busquets et Müller, c'est les quatre joueurs les plus intelligents qui ont mis les pieds sur un terrain sur les 10 dernières années.
Alors, dans les 11 de la décennie que vous me citez sur le hashtag, d'ailleurs, mon 11 décennie, vous pouvez y aller. Il y a par exemple Gilles Moret qui nous dit Neuer, Marcelo, Piqué, Ramos, Alves, Busquets, Pirlo, Iniesta et Robben, Ronaldo, Messi. Donc, les noms reviennent, évidemment. Il y a aussi le côté obscur du foot qui nous dit Neuer, Bonucci, on ne l'a pas cité, Barzali, Chiellini. Alors là, ça doit être un défenseur, un supporter de la Juve.
Mais ça peut s'entendre, hein. C'est très justifiable.
Ils n'ont pas gagné les champions, par exemple.
De la nationale.
De l'Italie, ouais. C'est très justifiable, je trouve.
Lahm à la bas, sur les côtés, en piston, visiblement. Pirlo, Vidal, Kanté et Cavani, Griezmann. Alors là,
il n'y a
pas de Messi, il n'y a pas de Ronaldo.
Son équipe, elle me fait plaisir. Parce que qu'il y ait au moins un représentant de l'équipe chilienne qui a été deux fois championne d'Amérique, alors qu'il n'avait jamais rien gagné auparavant. Et donc, en la personne d'Arturo Vidal, je trouve que c'est un joli clin d'œil.
On va prendre Slim au 32-16 à 22h51 dans l'after. Salut Slim.
Bonjour les amis, comment allez-vous?
Ça va bien.
Salut Slim.
Et toi, alors, tu nous as fait un 11. Alors, est-ce que c'est ton 11 de cœur ou c'est le 11 de la décennie, les meilleurs joueurs pour toi?
Les meilleurs joueurs, clairement. En tout cas, celui qui me semblait le plus efficace, le plus en avant, donc pour l'attaque. Donc, si je prends directement le gardien, bon, j'ai évité entre trois gardiens, j'ai préféré prendre Oblak.
Oblak, d'accord.
Oui. Ça me semblait, il est un peu plus, on va dire, vif par rapport à d'autres, mais en tout cas, ça me semblait être le meilleur.
Je pense qu'intrinsèquement, ça peut, il y a un débat entre lui et Neuer, effectivement, ouais. Intrinsèquement.
Après, il y a Ter Stegen, mais bon,
Sauf que Neuer, il a gagné la Coupe du Monde, dans cette décennie.
Oui, et puis avec la Slovaquie, il ne gagnera pas, a priori.
On sait jamais. Tu sais, avec les réformes du foot, tous les qualifiés.
Laissez-le dérouler. Continue, mon pote. Continue, Slim.
Bon, après, je rejoins à peu près dans la défense. On a Dani Alves, l'arrière-droit. En défense centrale, Ramos. Là, après, j'étais entre Massamel et Carles Puyol. J'étais pas vraiment sûr. Voilà, j'étais un peu entre les deux.
Puyol a mieux fini qu'Hummels, hein. C'est ça aussi.
Ouais, mais après, Puyol, c'est vraiment... il a joué quoi, 3-4 ans dans les années...
Mais il a joué dans le Grand Barça quand même, Puyol.
Ouais, à l'époque de Ronaldinho et tout ça, qui est avant 2010 quand même.
Mais quand tu mets Buffon aussi, il est un peu à cheval. Il joue encore presque.
Il joue encore l'année dernière.
Il gagne 7 titres en 2010
et 2019. Donc, t'as tranché entre qui? Entre Hummels et Puyol, Slim?
Bon, je dirais quand même Puyol pour l'histoire.
Ok. Ensuite,
arrière-gauche, Marcelo.
Très bien.
Il fait quasiment l'unanimité.
Voilà. Par contre, là, vous allez me démonter, je ne mettrai pas de milieu défensif, pour le coup, avec la défense que nous avons. Je ne mettrai pas de milieu défensif, je mettrai en fait un 4-3-3 assez tordu, accrochez-vous. Je mettrai directement un Xavi Iniesta.
Ouais, pour l'instant, voilà. Ça va.
Avec Messi en meneur de jeu.
Ah oui, c'est très offensif.
Ok, devant,
justement, vous allez avoir Ronaldo d'un côté.
Ouais.
Là, j'étais en train d'hésiter aussi entre Mbappé et Robben. Alors,
Mbappé, c'est trop jeune. Mbappé pour la décennie,
pour la prochaine décennie.
C'est trop jeune.
Oui, mais justement, pour l'espoir, mais sinon je mettrai Robben parce que c'est celui qui a marqué vraiment la décennie sur son côté. Mmh. Donc, et en attaque, alors là, pour le coup, j'étais en train d'hésiter aussi entre deux joueurs. Comment il s'appelle? Robert Lewandowski.
Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, Robert Lewandowski.
Il a sa place.
Mmh. Voilà. Et ensuite, il y a, comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié.
Cristiano, non? Tu les oublies. T'as pas cité Cristiano, c'est pas lui.
Il l'a mis sur un côté. Il l'a mis sur un côté.
Il l'a mis sur un côté, non.
Bah non, bah c'est bon,
Il lui manque, un?
Non, mais j'ai essayé d'hésiter entre l'un et l'autre, mais je pense que ça va être Robert Lewandowski.
Oui. C'est qui, Benzema? Suarez, peut-être?
Non, pas Suarez, non, c'est une brêle. Vous rigolez?
C'est une brêle? Ah, mon pote, tout était très bien, mais là, t'as fumé,
Suarez. Suarez est une brêle.
Non.
Bon, non, okay. C'est pas une brêle dans le sens une brêle, mais disons que, non, c'est un buteur, mais je dis pas le contraire, sauf que...
Qu'il a un caractère de con, pourquoi pas?
Bon, merci Slim. Merci beaucoup pour ton 11 de la décennie. Merci
d'être.
Tu vas faire plaisir à Karim, qui est un supporter du Barça.
Ah, c'est le Karim du Barça, en plus.
Est-ce qu'il a mis Suarez? Salut Karim.
Bonsoir, comment ça va? Ça va, Jonathan? Ça va tout le monde?
Ça va, Karim. Oui, Karim. Ça fait longtemps, mon pote. Pourquoi tu nous appelles plus?
On parlait de Puyol, mais je suis désolé, Puyol, quand je regarde, c'est trois champions, 6 Liga, une Coupe du Monde, un Euro.
Oui.
Est-ce qu'il y a la Mela dans son équipe type?
2010.
Il n'y a pas la Mela.
Mais Puyol, il a commencé plus tôt. C'est pour ça, la décennie, c'est normalement 2010-2020.
Ouais. Bah, allez, donne-nous ton équipe, Karim.
Bah, moi, le gardien, on en a oublié. Franchement, on a oublié Iker Casillas. Désolé, quand même.
C'est vrai.
Désolé, même si c'est trop partout, c'est la dernière gardienne du monde, même de l'histoire. Au latéral, Dani Alves, c'est Moïse.
Ouais, Alves.
Bah, moi, défense, j'ai mis Sergio Ramos Puyol.
Ah ouais, pour un supporter du Barça, mettre Ramos, c'est bien.
Franchement, comme j'ai un peu hésité comme tout à l'heure, entre Marcelo et Alba, parce que voilà, pour les derniers résultats, je défends pour j'ai mis Marcelo, même si j'aurais voulu mettre Alba.
Ouais.
Après, bon, mes trois milieux, bon, vous n'allez pas être surpris, j'ai mis Busquets, Savignetto, franchement, pour le football pratiqué.
Bien
plus
sûr.
Pour le jeu, en fait. C'est plus pour le jeu. Plus pour le jeu. Et devant.
Ça se comprend totalement, Karim. T'as pas dû suivre là-dessus.
Bah oui, il a mis la même chose que toi.
Donc, il a raison.
J'ai mis de côté droit Messi, et il y en a un qu'on a oublié, c'est Luis Suarez. Désolé.
Alors, il a été cité par François Manardo. Voilà.
Franchement, Luis Suarez, c'est impossible. Franchement, à lui. Il se à Liverpool, le même championnat, il est sur la pente descendante, je suis désolé.
Ouais, c'est pas faux, ouais.
Franchement, il a même les filles d'or, franchement, c'est l'un des meilleurs neufs, franchement, dans la FDPI.
Ouais. Ok Karim, merci beaucoup pour ton 11 qui est très bien, hein. 11 de la décennie, franchement ça gagne à tous les coups. Merci beaucoup, on n'a pas cité l'entraîneur, est-ce que vous avez une idée de l'entraîneur de la décennie? Bon, Karim, je m'en doutais, Pep Guardiola pour toi. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans l'entraîneur, bonne soirée à toi et bonne fête. Jonathan, l'entraîneur pour toi?
C'est Guardiola, il n'y a pas de...
François?
Il y a Guardiola au club, mais club c'est peut-être la décennie prochaine.
Ouais, c'est Zidane, je ne vais pas me contredire par rapport à ce que j'ai dit à 48 heures, ouais. Mais l'accord entre Klopp, Guardiola, Zizou, non, je mets Zidane. Par rapport à
les par rapport voilà, 3 fois de suite, c'est aux Ligue des Champions. Donc tu nous dis pendant tout, tu nous dis qu'il faut pas parler des titres et là, hop, tu nous mets Zidane.
Non, mais un coach, tu peux le voir aussi. Après, son Real est pas infamant.
Ah bah non, bien sûr.
Moins s'en faut. Et puis c'est par rapport aux titres.
Ça vaut pas Jean-Marc Furlan, Zidane.
Moi, je suis un Kloppiste.
Je suis d'accord avec toi.
À 10 000, pourquoi? Parce que...
Deux voix pour Klopp.
Il a révolutionné, justement, pour contrer Guardiola. Il y a un nouveau style de jeu partout. Il l'a fait, ça a fonctionné.
Et bien, justement, transition parfaite. Parce qu'on va parler de Pep Guardiola, puisque demain, Manchester City joue en Première Ligue. On va parler également de Jürgen Klopp, d'autres coachs, d'ailleurs, puisqu'on va faire un point sur la 20e journée de Première Ligue. Il y aura du Mourinho, du Ancelotti, du Arteta, du Pellegrini, qui a été viré, d'ailleurs, aujourd'hui. On en parle dans un instant avec Julien Laurence dans l'After. À tout de suite.
RMC, 21h30.
L'After Foot.
This is the sound of an express service from Mercedes-Benz Cars. Two of our expert technicians working exclusively on your Mercedes-Benz while you sit back and enjoy a complimentary coffee on us. All it takes is as little as an hour of your day. The whole process is quick, easy and hassle-free. Get an instant quote online and book a time that suits you. Simply search my service and book yours today. And before you know it, you'll be on your way. Subject to the service required at participating retailers only, terms and conditions apply.